7-9.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le vendredi 8 avril. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, J-2 avant le premier tour de la présidentielle, entre dernier meeting et rencontre avec les électeurs, les 12 candidats retiennent leur souffle. Nous serons à Lyon avec Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, qui sera notre invitée à 8h20 pour le dernier rendez-vous de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats. Amis auditeurs, vous aurez largement la parole, vous le savez, dans cet entretien spécial. Alors j'attends vos questions. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000. Anaïs, les autres titres.
Un embargo européen sur le charbon russe décidé hier, alors que des cadavres sont encore découverts à Boutcha en Ukraine. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Dernière ligne droite du procès de Nicolas Zepeda à Besançon, toujours enfermé dans la négation de l'assassinat de sa petite amie. Et puis direction Cap Canaveral avec le décollage aujourd'hui du premier vol privé vers l'ISS avec trois touristes à bord.
Et rendez-vous à 7h45 pour le débat éco du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, autour d'une question ce matin. Avons-nous assisté à la campagne présidentielle la moins économique de l'histoire ?
France Inter.
Il faut aller chercher les indécis, convaincre les électeurs. Dernière journée de campagne officielle, elle se termine ce soir à minuit. La plupart des 12 candidats ont tenu hier leur dernier meeting. C'était d'ailleurs le 20e de Valérie Pécresse, hier soir à Lyon, et qui, malgré les sondages qui la placent derrière le trio de tête, veut encore y croire, Anne Souhaitement.
Ils étaient plus de 1000 hier à Lyon. Drapeau, DJ, ambiance en trompe-l'œil alors que les sondages continuent de baisser. Le meeting de la mobilisation tourne à l'opération câlinothérapie. Ténacité, courage, on se succède pour saluer les qualités d'une candidate en pleine tempête. Même son pire ennemi, Laurent Wauquiez, y va de son éloge.
Nous voulons tous te dire une chose, qui est le dénominateur commun de tous ceux qui sont intervenus, Valérie. Tu n'as rien lâché.
Dans son rôle, Valérie Pécresse entre en scène sous Léon va gagner, les Valérie on t'aime. Fidèle à sa campagne, elle liste ses mesures, 10% de hausse des salaires, retraite à 65 ans et fait mine d'y croire encore.
Ce premier tour où nous allons faire mentir tous les sondages, ne vous laissez pas voler cette élection, ne vous laissez pas voler cette victoire, nos idées sont majoritaires.
Mais bien vite, Valérie Pécresse se lance dans un début d'inventaire, avance des explications à une campagne impossible.
Emmanuel Macron est un président qui a escamoté la campagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire qu'on assiste à un simulacre de campagne électorale?
Un meeting réussi en termes de mobilisation, mais à l'avant-goût de défaite. Dans son discours, Laurent Wauquiez prépare même les esprits au nini en cas de duel Macron-Le Pen au second tour. Nous n'avons pas à choisir.
Un duel avec même un écart qui se resserre selon les derniers sondages. Marine Le Pen, hier à Perpignan, s'est placée comme étant déjà au second tour, proposant à ses électeurs une alternative, je cite, entre une dilution dans le grand magma mondial ou l'affirmation de la nation. Sans mentionner la guerre en Ukraine, la candidate du Rassemblement national a redit son opposition aux sanctions contre la Russie qui pèseraient, selon elle, sur le budget des ménages. C'est donc maintenant bientôt l'heure des choix et le temps de la réflexion. À partir de minuit, silence radio obligatoire jusqu'à la proclamation des résultats, dimanche soir 20h. Simon Le Baron, comment les candidats occupent-ils ces dernières heures ?
Une fin de campagne en ligne pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, le numérique n'étant pas soumis aux règles du temps de parole. Tous deux veulent parler aux jeunes, le sortant sur Brut, l'insoumis sur Twitch, Twitter, Facebook et YouTube. Autre stratégie pour Marine Le Pen, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, qui veulent laisser comme dernière image celle de la proximité. La candidate du RN sur le marché de Narbonne, celle du PS sur le marché parisien de Belleville et celle de LR en déjeuner champêtre à Kéran dans le Vaucluse. Ni web, ni terrain, mais petit comité avec ses ralliés pour Éric Zemmour. Dernière journée verte pour Yannick Jadot à Lyon sur le thème des renouvelables. Dernier râpé Roussel pour le candidat communiste à Paris. Dernier déplacement pour Nicolas Dupont-Aignan au Mont-Valérien. Dernier meeting pour Philippe Poutou à Grenoble et Nathalie Arthaud à Rouen. Et dernier média pour Jean Lassalle. Qu'ils aient une chance de se qualifier ou non, chacun doit mobiliser son camp. Pour les futurs finalistes, c'est leur dynamique de second tour qui est en enjeux. Pour les autres, leur place dans le paysage politique des 5 prochaines années.
Et c'est tout l'enjeu, par exemple, du Parti communiste. Fabien Roussel, hier en meeting à Lille, a parlé du début d'une renaissance pour la gauche après la présidentielle. Il assure d'ailleurs que ce ne sera pas son dernier scrutin, pour lequel la barre fatidique des 5% sera importante. Elle détermine le remboursement des frais de campagne. Quant à la propagande électorale, les facteurs ne chôment pas. Un peu plus des 2/3, plus de 33 millions de plis déjà distribués. Ça suit son cours selon le calendrier habituel, dit La Poste, et ça arrivera dans les boîtes aux lettres encore jusqu'à samedi.
Il est 7h05, Anaïs, des scènes glaçantes en Israël.
Hier soir, en plein cœur de Tel Aviv, des coups de feu dans un bar, il y a 2 morts, 16 blessés. L'auteur de l'attaque a été tué par la police dans la nuit. Nous serons en direct d'Israël avec notre correspondant sur place dans le journal de 7h30. L'Europe et son soutien indéfectible à l'Ukraine. C'est avec ces mots que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se rend à Kiev aujourd'hui. Les Européens qui, pour la première fois, se décide à frapper le secteur énergétique russe dont nous sommes pourtant très dépendants. Un embargo sur le charbon a été décidé hier à Bruxelles. Jean-Jacques Herry.
Les 27 États membres se sont mis d'accord sur un embargo unique sur le charbon russe, mais pas sur le pétrole ni sur le gaz. Le charbon russe représente 45% des importations de l'UE. C'est un chèque de 4 milliards d'euros par an qui ne rentrera plus dans les caisses russes, selon la Commission européenne. Le temps de rompre les contrats sur une base légale, cet embargo entrera en vigueur au début du mois d'août. Au-delà du secteur énergétique, ce paquet de sanctions vise aussi les transports. Interdiction désormais aux navires russes de pénétrer dans les ports de l'Union. Quant aux transporteurs routiers russes et biélorusses, ils ne pourront plus rouler sur les routes européennes. Pour frapper et saper encore un peu plus l'industrie russe, il sera par ailleurs impossible d'exporter vers la Russie des biens de haute technologie, des semi-conducteurs par exemple. Cela représente un montant de 10 milliards d'euros. En parallèle, les avoirs de plusieurs nouvelles banques russes vont être gelés. Et enfin, la liste noire de l'UE de personnalités russes s'allonge de plus de 200 noms, dont font partie des oligarques et les deux filles de Vladimir Poutine. Bruxelles, Jean-Jacques Herry pour France Inter.
L'Union européenne a proposé hier soir aussi 500 millions d'euros supplémentaires pour fournir des armes à l'Ukraine, car les Ukrainiens veulent préparer l'offensive russe attendue dans le Donbass. Toutes les villes libres de la région de Lugansk sont sous le feu ennemi, dit son gouverneur. Évacuation difficile, la seule et dernière voie ferrée qui sort du Donbass bombardée. Les civils doivent prendre des bus. Alors que dans la région de Kiev, d'où se sont retirées les troupes de Vladimir Poutine, chaque jour apporte son lot de découvertes. Découverte macabre. Borodianka, au nord-ouest de la capitale. 26 corps retrouvés sous les décombres de 2 immeubles d'appartements hier. Il n'y a aucun site militaire. Seule la population civile a été visée, dit la procureure générale. Des bombes sous munitions ont été utilisées. Impossible de savoir combien de morts vont être découverts. Situation sans doute pire qu'à Boutcha, où les équipes des pompes funèbres continuent de ratisser les rues de cette petite ville huppée. Nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Benjamin Thuo ont suivi les équipe de Sergui.
Il ferme le sac mortuaire, soulève le corps, puis ouvre la porte de la benne. Il dispose le cadavre à côté des 2 autres. C'est le 20e de la journée.
Là, il ne reste que le crâne et c'est difficile de l'identifier. Il y en a beaucoup dans cet état-là. Les Russes ne nous laissent pas les récupérer et les corps sont restés là, dans les rues. Ces gens ont été assassinés.
Tous les jours, donc, depuis le départ des Russes, Sergui sillonne la ville pour chercher et ramasser des corps.
On tient le coup. Si on ne le fait pas, qui va le faire ?
Et comme tous les habitants de Boutcha, il essaie de comprendre les raisons qui ont poussé les Russes à commettre un massacre, pour le moment unique, par sa violence et son ampleur.
Boutcha, c'est une ville européenne et moderne, et eux, ils sont arrivés de villages perdus. Ils n'ont rien, pas d'électricité, pas d'asphalte, rien. Ils ne savent pas comment les gens vivent. Les Russes ont tout détruit par jalousie.
Les cadavres sont rassemblés en fin de journée, près du cimetière. Ils sont ensuite identifiés quand c'est encore possible, avant d'être déplacés dans plusieurs morgues de la région.
Thibault Lefebvre avec les moyens techniques de Benjamin Thuo à Boutcha. Hier, l'Organisation mondiale de la santé scandalisée a confirmé plus d'une centaine d'attaques contre des services de santé en Ukraine, une violation du droit humanitaire international. Encore à l'étranger, Joe Biden salue un jour historique. La magistrate Ketanji Brown Jackson devient la première femme noire à siéger à la Cour suprême des États-Unis pour la première fois en 233 ans d'histoire.
Il est 7h09, il affiche un flegme quasiment sans faille depuis le début de son procès à Anaïs, mais il a vacillé hier.
Nicolas Zepeda, ce Chilien de 31 ans, jugé aux assises du Doubs pour l'assassinat de sa petite amie japonaise, il nie farouchement le crime. Mais hier soir, lors de son dernier interrogatoire, la Cour a cherché à obtenir des aveux et en fin d'audience et contre toute attente, c'est sa propre avocate qui a tenté de le faire avancer sur le chemin de la vérité. Moment d'émotion, Jean-Philippe Degnaud nous raconte.
Symboliquement, Maître Lafond quitte le banc de la défense et s'installe à la barre des témoins, face à l'accusé, face à son client. Elle prépare le terrain. Monsieur Zepeda, on vous entend pour la dernière fois sur l'assassinat de Narumi, dont vous êtes accusé. On a tous été bouleversés par les témoignages déchirants de sa famille. Êtes-vous en mesure de répondre à leur espérance? Êtes-vous en mesure d'aider à retrouver ce corps aujourd'hui? Zepeda est déstabilisé. « Je n'ai pas tué Narumi », proteste-t-il, mais l'avocate insiste. « Vous avez fait des petits pas ces derniers jours. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une dispute se serait produite et aurait mal tourné? Est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose pour la dernière fois? Quelque chose d'autre ?» Zepeda semble perdu, il se redresse, il prend une longue respiration, il ferme les yeux et lâche comme dans un cri de douleur. « Je suis loin d'être parfait, mais je n'ai pas tué Narumi, je ne l'ai pas tué !» Puis il s'effondre dans de bruyants sanglots qui emplissent la salle d'audience totalement silencieuse pendant de longues secondes. Maître Lafond sait qu'elle ne pourra pas aller plus loin. Elle abandonne le face-à-face et rejoint le banc de la défense.
Et ce matin, l'accusé sera confronté aux expertises psychiatriques qui le décrivent comme possessif et manipulateur. Autre affaire douloureuse qui avait mis en lumière le phénomène de harcèlement sur les réseaux sociaux. Les deux adolescents responsables de la mort de la jeune Alisha, 14 ans, à Argenteuil, ont été condamnés hier à 10 ans de réclusion criminelle, 180 000 euros de dommages et intérêts. Ils ont 16 ans aujourd'hui. Il y a un an, ils avaient tendu un guet-apens à la collégienne, la rouant de coups avant de la jeter dans la Seine. Le ministre français de l'Agriculture en colère contre la Commission européenne. Elle veut durcir la réglementation sur la pollution des élevages industriels en étendant la limitation des rejets polluants aux élevages de plus de 10 000 poules, 500 porcs ou 150 vaches. Le début des vacances de printemps, ce soir ou demain pour la zone B, qui commenceront sous la tempête si vous avez choisi les Charentes ou le Massif central. La tempête Diego va traverser la France d'ouest en est aujourd'hui. 5 départements sont désormais en vigilance orange. Voilà en tout cas une destination touristique peu banale et bien sûr pas à la portée de n'importe quelle porte-monnaie. L'immensité de l'espace. 4 hommes décollent aujourd'hui vers la Station spatiale internationale. Le tout premier vol entièrement privé, celui d'une fusée Falcon avec à son bord un astronaute professionnel et 3 touristes. La compagnie américaine Axiom, Olivier Aymon, envisage à terme de développer sa propre station.
Encadré par un ancien astronaute de la NASA, ce séjour d'une semaine à bord de l'ISS doit permettre à Axiom de valider la première étape de son ambitieux programme, qui doit donc aboutir à la construction d'une station spatiale privée. Pour cela, l'entreprise fait fabriquer en ce moment ses propres éléments, de futurs modules d'habitation, sorte de gros cylindres métalliques d'une dizaine de mètres de long pour 4 mètres de diamètre. Cela se passe à Turin, chez Thales Alenia Space. Anna Maria Pirassi est la responsable de ce programme.
Les éléments d'Axiom représentent une transition entre l'actuelle station, gérée par les États, et une utilisation à venir de cette partie de l'orbite terrestre comme un endroit accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs, notamment ceux venant du privé. Ces éléments seront d'abord raccrochés au reste de l'ISS pour lui fournir des espaces supplémentaires et vers 2026, ils se sépareront pour former une station en orbite basse, totalement autonome et commerciale.
L'aménagement intérieur de ces modules a été confié au designer français Philippe Stark. Le premier de ces éléments doit quitter la Terre en 2024.
Et plusieurs dizaines de millions de dollars quand même, hein, pour chaque touriste.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 19, consacré aujourd'hui aux logisticiens, incarnation de la nouvelle classe ouvrière.